Radio Okapi.
La grande édition de nos informations dominicales vespérales, c'est avec Patience Ngalula Mbombo.
Ça y est, l'élection des sénateurs du Nord Kivu a bel et bien eu lieu ce dimanche à Goma. Les quatre candidats élus par les députés provinciaux du Nord Kivu ne sont pas encore connus. Selon la CENI, les résultats provisoires de ces scrutins vont être transmis à la CENI au niveau de la Kinshasa, au niveau de Kinshasa pour la publication des résultats provisoires, en attendant la confirmation du Conseil d'État pour validation. Les ponts Lubi s'effondrent ce dimanche dans les territoires de Kabeya-Kamwanga, province du Kasaï oriental. Un camion de marque Mercedes transportant des passagers et des marchandises en provenance de Kananga pour Mbujimayi s'est renversé dans la rivière Lubi. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible. L'invité de ce journal est Benjamin Kalumiré, chef de section désarmement et démobilisation PDD-RCS Sud Kivu. Il nous parle des acquis de la formation organisée la semaine dernière à Goma par la section DDR de la MONUSCO, ce au profit des cadres et agents de ces programmes. Bonsoir à toutes et à tous. Au Nord Kivu, l'élection sénatoriale a bel et bien eu lieu ce dimanche à Goma. Quatre candidats ont été élus sénateurs par les députés provinciaux du Nord Kivu. C'est ce qui a été repris sur les procès-verbal de la CENI après les dépouillements des bulletins de vote. Selon la CENI, les résultats provisoires de ces scrutins vont être transmis à la CENI au niveau de Kinshasa pour la publication des résultats provisoires en attendant la confirmation du Conseil d'État pour être validé. Nous y revenons avec Bernardine Djambou.
Parmi les 34 candidats, seuls 4 ont obtenu les suffrages nécessaires pour siéger à la Chambre haute du Parlement. Après dépouillement des bulletins de vote par la CENI, sur 48 députés provinciaux, 47 ont voté. Ceux qui ont été élus sont Mumbere Machozi Papi, candidat indépendant avec 9 voix, Kasereka Katokolio, Jean-Marie du regroupement politique A bar B50, élu avec 8 voix, Shabani Luko Bihango, Jackman de l'IDPS Tshisekedi, élu avec 8 voix, et Célestin Vunabandi Kanyamihigo, candidat indépendant élu avec 6 voix. Les autres candidats se sont partagés les restes de voix. Il faut noter que les élections des sénateurs interviennent dans un contexte particulier marqué par l'état de siège décrété dans le Nord Kivu à cause de la crise sécuritaire qui secoue la province. Les nouveaux sénateurs auront pour mission de porter la voix des populations du Nord Kivu, longtemps meurtrie par les guerres à répétition. Les élus attendent la publication des résultats provisoires de ces scrutins par la CENI au niveau de Kinshasa. Il faut noter également que cette élection des sénateurs s'est passée dans les calme et dans la transparence sans aucun incident. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
À Inongo également, les élections du gouverneur, vice-gouverneur et des sénateurs de la province du Mai Ndombe ont eu lieu ce dimanche 26 mai 2024. À l'issue de ces scrutins, les candidats gouverneurs Aimé Pascal Mongolo Konda ainsi que les bons Koso Kevani ont obtenu chacun 9 voix, ce qui va amener la CENI à organiser le deuxième tour de cette élection dans 72 heures. Au Kasaï oriental, 43 conseillers communaux et 5 chefs de bureaux des communes de la ville de Mbujimayi ont été réunis ce vendredi pour une formation sur la problématique de la première expérience des conseillers communaux en RDC. Ces travaux d'un jour ont été organisés par les centres d'études et des formations populaires pour les droits de l'homme, CFOPDH, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé « Action des citoyens pour la transparence des élections en 2023 » Acte 2023. D'après l'assistant juridique de CFOP, le but de cette formation est de contribuer au renforcement des capacités des conseillers communaux et d'améliorer leurs connaissances sur leurs attributions, étant donné qu'ils sont à leur première expérience. Maître Clément Mukendi s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
C'est une toute première expérience et beaucoup des élus communaux ont des petites difficultés sur le travail qui les attend en tant que conseillers communaux afin que ces derniers puissent réaliser un travail de qualité, un travail qui concourt à l'intérêt général de la population de leur commune. Beaucoup des élus sont pour leur toute première fois engagés dans la carrière politique et pour pouvoir les aider, amener tout le monde à une même vision, pouvant conduire à un travail de qualité, un travail professionnel de terrain. Et là, nous avons épinglé les attributions phares. Premièrement, le conseiller communal a comme rôle dans sa communauté de légiférer. Ils doivent élaborer des règles de conduite qui réglementent la vie dans leurs entités. Et cette réglementation-là doit se référer à l'article 50. Deuxièmement, comme rôle également, c'est de contrôler les collèges exécutifs communaux, les services publics et entreprises publiques relevant de la compétence de la commune. Et là, nous avons donné les 5 outils que l'article 138 de notre Constitution prévoit comme moyen pour pouvoir assurer le contrôle parlementaire.
Et puis, les défis sécuritaires, les difficultés liées au transport ainsi que l'insalubrité sont les préoccupations sociales urgentes à réglementer dans la ville de Kinshasa. Ce plaidoyer a été lancé aux nouvelles autorités urbaines de la capitale ce samedi par les mouvements citoyens et les organisations de la société civile réunies en Assemblée provinciale citoyenne de Kinshasa. Bertin Kaninda, président de cette structure, recommande à l'actuel gouverneur de Kinshasa de prendre des mesures contraignantes pour pallier cette situation et bien d'autres défis majeurs à relever. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
C'est un casse-tête aujourd'hui pour les Kinois. On ne sait pas qui, à Kinshasa, est en train de diriger les secteurs de transport. Parce qu'on voit les chauffeurs en train de faire le demi-terrain, de donner des tarifications qui ne concordent pas aux bourses des citoyens. On ne sait pas maintenant à quel sens se vouer. C'est comme ça qu'on s'est dit, nous devons faire un plaidoyer pour qu'on puisse réglementer toutes ces choses-là. Il y a des embouteillages monstres, c'est vraiment un casse-tête pour les Kinois. Et l'insécurité, vous le savez, aujourd'hui avec l'opération Panthère Noire, ça a eu un peu d'accalmie, mais ça commence à renouveler. Ça veut dire qu'une fois Kinshasa, la police baisse les bras, ça recommence et maintenant ça prend d'autres ampleurs. C'est comme ça que nous voulons également attirer l'attention de l'autorité urbaine qu'il puisse continuer avec sa police, qu'il puisse continuer à traquer tous ces malfrats-là. Et le problème de l'insalubrité, ça c'est vraiment au quotidien pour les Kinois. Il n'y a pas de dépotoir, il n'y a pas même de dépotoir de transit. Les gens jette les immondices dans les caniveaux. On doit réglementer ce secteur en mettant de mesures contraignantes pour que la population cesse.
Il faut signaler que cette rencontre s'est tenue un jour après l'installation des assemblées provinciales citoyennes de la RDC, une initiative du CEPAS, des mouvements citoyens et des organisations de la société civile en vue de canaliser les désidérata des Congolais vers les institutions étatiques, notamment le Parlement. Je le disais au sommaire, effondrement ce dimanche matin du pont Loubi dans les territoires de Kabeya-Kamwanga, province du Kasaï oriental. Un camion de marque Mercedes en provenance de Kananga pour Mbujimayi s'est renversé dans la rivière Loubi. Selon les témoins sur place, c'est la surcharge du camion qui serait à la base de cet accident. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible. Suivez ces témoignages recueillis par Vanessa Kongolo.
J'ai quitté la ville de Mbujimayi ce matin pour Kananga. Arrivé à la rivière Loubi autour de 11h, quelques heures avant, un véhicule marque Mercedes des Kananga vers Mbujimayi avec à son bord la marchandise ainsi que quelques passagers. C'est renversé dans la rivière Loubi à cause du poids ainsi que de la faiblesse du pont. Celui-ci s'est affaissé d'un côté et le véhicule est tombé et toute la marchandise qu'il avait à bord.
Dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, la nouvelle société civile congolaise du secteur des Rouenzori alerte sur les délabrements avancés du pont jeté sur la rivière Loumé au niveau du village de Balombi, à une cinquantaine de kilomètres de Beni. D'après Meleki Mulala, coordonnateur de cette structure citoyenne, les eaux des pluies sont à la base de cette situation. Il demande au gouvernement de réhabiliter de toute urgence ces ponts compte tenu de l'importance socio-économique de cet axe routier qui facilite la communication entre les villes de Butembo et Beni avec la cité frontalière de Kasindi, Lubiria et l'Ouganda voisin. Meleki Mulala est au téléphone de Grévis Salumu.
Depuis un certain temps, le pont est en train d'être rongé par les eaux de la rivière parce qu'il pleut là-bas abondamment. Alors, les eaux ont commencé à ronger les supports de ces pots. Malheureusement, le pont jeté sur une route nationale est fabriqué par les bois. C'est depuis longtemps que le pont avait cédé, mais on continue à garder le pont ces derniers temps. En tout cas, nous interpellons aussi la conscience de l'État congolais, à commencer par le gouvernement provincial, de voir comment s'impliquer pour qu'on nous jette un pot, peut-être en métallique, comme le pot jeté sur la rivière Semouliki, sur cette même route, mais aussi aux chauffeurs de voir comment réglementer les tonnages, parce que c'est risquant vraiment de passer sur ces pots avec des tonnages, des gros véhicules, seulement les motos et quelques voitures.
Nord Kivu toujours, c'est depuis environ 6 mois que le parc national de Virunga a érigé une clôture électrique le long de sa limite avec les communautés riveraines à Kasindi. Objectif, empêcher la traversée des pachydermes du parc vers les champs de la communauté riveraine. 6 mois plus tard, quel est l'état des lieux de la situation? Sadiki Aboubakar depuis Beni pour les détails.
Au début, ce projet a été vivement critiqué. Il s'étend sur environ 50 km de la route nationale numéro 4 sur l'axe Beni-Kasindi à la limite du parc avec les communautés riveraines. Cependant, la société civile de la cité frontalière de Kasindi-Lubiria s'est réjouie des retombées de cette clôture qui, selon elle, non seulement empêche les incursions des rebelles des ADF en provenance du parc, mais aussi favorise une bonne production agricole autour de l'aire protégée. Joël Kitaoussa, vice-président de la société civile de Kasindi.
Aujourd'hui, les plantes mûrissent normalement bien sans être dévastées par les animaux du parc.
Du côté du parc national de Virunga, c'est la satisfaction totale. Bienvenue Bouende, chargé de communication de l'ICCN au Nord Kivu.
Il y a la végétation qui revient dans la partie jadis envahie à Lubiria et depuis quelques jours, nous voyons le retour des troupeaux d'éléphants dans cette zone, preuve qu'ils s'y sentent en sécurité. Cette situation renforce la paix sociale et la bonne cohabitation entre justement le parc et les communautés riveraines dans cette zone.
La société civile recommande toutefois à l'ICCN de renforcer les mécanismes de sensibilisation de la communauté au danger d'électrocution sur la dite clôture. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Direction Ituri, où les leaders des groupes armés Zaïre et Codeco ont réitéré leur engagement à respecter les accords pour la cessation définitive des hostilités dans cette province. C'était au cours de la réunion d'échange vendredi et samedi avec une équipe conjointe MONUSCO gouvernement provincial dans les secteurs de Banyarikilo dans les territoires de Djougou. Les communautés locales ont été également sensibilisées à promouvoir la cohabitation pacifique au regard des tensions ethniques observées depuis plus d'une semaine dans cette entité. Selon les organisateurs, l'objectif de cette démarche est de consolider la paix en Ituri. Isaac Remoyope.
Cette équipe conjointe MONUSCO et gouvernement provincial, accompagnée des 13 chefs de groupement de Banyarikilo, occupés par des groupes armés, s'est rendue à Bambou, Kobu, Kilo et Itende, à plus de 30 km au nord de Bounia. Les membres de la délégation ont rencontré les leaders de la milice Codeco et Zaïre. Au cours de leur échange, ils ont passé en revue le clause de l'accord de paix d'Arou, signé en juin 2023, qui prévoyait notamment la cessation définitive des hostilités et le retrait des miliciens dans les entités des communautés locales. Les leaders de Codeco se sont engagés à appliquer cet accord, qui sera précédé d'un dialogue entre les communautés Lendu et Nyali. Cela pour étouffer la tension ethnique dans la région où des civils innocents sont agressés ou lynchés à cause de leur identité vers Mungwalu. Selon les porte-parole de l'armée, cette étape est décisive avant l'usage de la force pour imposer la paix. Le lieutenant Gilles Ngongo.
La région militaire, l'affaire civile de la MONUSCO et les AT se sont dirigés vers cette zone pour tout d'abord conscientiser les communautés, appeler les groupes armés à respecter leur cahier d'engagement. Le contraire, c'est pour voir comment nous allons déployer les militaires pour imposer l'autorité de l'État.
Cette équipe conjointe se rendra cette semaine dans les localités situées sur l'axe Katoto, Masumbuko, Largo, Drodro, Boulé, dans les territoires de Djougou, où les menaces des groupes armés sont permanentes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, le tribunal des grandes instances de Goma requit 10 ans de servitude pénale et une amende de 25 000 $ américains contre un trafiquant illégal d'animaux sauvages totalement protégés. L'audience de plaidoirie s'est tenue ce samedi. Le trafiquant congolais Babou Diafar, assisté par son avocat, a été confronté à un panel des 4 avocats représentant l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Le tribunal prend l'affaire en délibéré avant les prononcés du juge qui intervient incessamment. Mais déjà, un des avocats de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains ACDH qui plaide pour l'ICCN dit attendre un jugement exemplaire pour décourager ces crimes environnementaux. Maître Eric Kambale l'a dit ici au micro de Bernardin Nyangui.
Les jours d'aujourd'hui, ça a été une victoire pour nous d'avance parce que c'est une affaire qui a tellement traîné, qui a fait beaucoup de complications. Mais finalement, aujourd'hui, le suspect a été présenté devant le tribunal. C'est pour cela que nous disons que c'est une victoire d'avance. C'est la deuxième audience, mais avant qu'il y ait une épicité fixée au tribunal de grande instance, vous imaginez les différentes étapes qui ont été suivies. Les prévenus étaient arrêtés, relâchés plusieurs fois. Et donc, la lettre congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme tenait à ce que ce prévenu-là puisse être présent devant le tribunal avec ses acolytes, exactement, qui n'étaient pas directement poursuivis. Maintenant, ils ont été attendus et nous espérons que la suite sera meilleure pour nous. Il est poursuivi pour le trafic des espèces sauvages protégées. Plus de 50 espèces qui ont été découvertes chez lui. L'affaire a été plaidée. Nous espérons que ce que la justice fera, ça sera une jurisprudence. Et au moins un jour, les gens comprendront que non, ces activités illégales ne sont pas supportables.
Et puis, à Beni, une centaine de jeunes filles et garçons ont été sensibilisés ce dimanche à l'hygiène menstruelle. C'était au cours d'une séance organisée par les ONG locales UFEDOC, Union des femmes domestiques du Congo et Agir RDC, en prélude à la Journée internationale de l'hygiène menstruelle célébrée le 28 mai de chaque année. L'objectif de cette activité est d'inciter la jeunesse à briser les silences autour de la menstruation perçue comme un tabou dans la communauté, affirment les organisateurs. Reportage de Grévis Salomon.
Les participants sont des jeunes qui pratiquent du sport chaque dimanche matin dans les rues et avenues de Beni. Gertrude Kahambou, l'une des organisatrices, explique l'essence sens de cette sensibilisation.
Montrer à toutes les jeunes filles et jeunes garçons que les mots menstruels, ce n'est pas un tabou. C'est un mot comme les autres, que ça ne puisse pas être un sujet de moquerie. Il y a certaines filles jusque-là ne savent pas faire leur hygiène. Quand on est dans notre période, ça demande beaucoup de propriétés.
Cette sensibilisation a permis aux participants d'acquérir quelques notions de base, comme le confirme Riziki Vihamba.
Il y a eu de nouvelles choses, de nouvelles techniques que je viens d'apprendre. On nous a dit qu'on peut avoir des infections quand on passe beaucoup de temps sans s'échanger. On peut être atteinte par certaines maladies si on ne respecte pas l'hygiène menstruelle.
Eloge Kiringue appelle pour sa part les parents à avoir des discussions avec leurs enfants-filles dès le bas âge autour de cette question.
Des fois, les parents pensent que c'est un tabou et pourtant c'est une question de prévenir aux enfants. Les parents peuvent prendre le temps de montrer comment ça s'est fait pour que ça ne soit pas compliqué parce que c'est très stressant vraiment.
Quelques kits hygiéniques ont été distribués aux participants à la fin de cette sensibilisation. Beni, Grévis Salomon, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, au festival annuel Awawale, organisé par l'ONG Gros Mot vendredi 24 et samedi 25 mai à l'Institut Goethe d'Abidjan, plusieurs activistes étaient invités à prendre la parole sur la situation des personnes homosexuelles et transgenres. Face aux tentatives de mise en place ou de durcissement des législations homophobes dans plusieurs pays de la sous-région, comme au Ghana, au Mali et au Burkina Faso, l'une des priorités est de préserver les relatifs Havre de paix qu'offre la Côte d'Ivoire.
L'invité.
Benjamin Kalumiré, chef de section des armements et démobilisation du PDDRCS Sud-Kivu, est notre invité. Il nous parle des acquis de la formation organisée la semaine dernière à Goma par la section DDR de la MONUSCO au profit des cadres et agents de ces programmes. En quoi cette formation lui est-elle utile en tant que cadre et comment va-t-il s'y prendre après le départ de la MONUSCO du Sud-Kivu? Benjamin Kalumiré répond dans cet entretien accordé à Denise Lukeso.
Monsieur Benjamin Kalumiré, bonjour.
Bonjour madame.
Vous venez de clôturer un atelier sur l'analyse et la planification du désarmement et démobilisation de groupes armés au Sud-Kivu. Qu'est-ce que vous avez retenu durant les 5 jours de cette formation?
Nous avions été capacités, notamment sur les différentes activités, notamment du désarmement, sur le standard international que l'on doit respecter. On a été capacité sur la différence des différents groupes armés, parce que chez nous, nous parlons tout simplement d'un groupe armé sans pour autant pouvoir le classer et le classifier selon le standard international, savoir différencier un groupe armé d'un groupe terroriste, d'autres sortes de groupes armés. Donc il y a eu cette capacitation qui nous a été très très bénéfique. Sinon, toute la formation a tourné autour de ce concept désarmement et démobilisation dans son ensemble et beaucoup plus sur le standard international par rapport à ce que nous faisons ici, disons pouvoir adapter notre contexte de la RDC sur le standard international.
Alors que la MONUSCO est en train de se retirer progressivement du Sud Kivu, dans le cadre des transferts des compétences aux autorités locales, vous, en tant que chef de section désarmement, démobilisation du PDDRCS Sud Kivu, en quoi cette formation va vous aider dans votre travail quotidien comme chef de section du désarmement?
Il s'agit là bien de toutes les compétences qui étaient reléguées à la MONUSCO et en particulier le rapatriement des éléments de groupes armés étrangers et de leurs dépendants. Il s'agit aussi ici d'une manière d'entrer en contact avec les éléments de groupes armés, non seulement locaux mais aussi étrangers, parce que là il y a au moins une méthodologie qu'il faut respecter pour entrer en contact avec ces éléments de groupes armés tels que la MONUSCO le faisait. Et c'est de cette manière-là que nous, au sein PDDRCS dans la province Sud Kivu, nous allons prendre au moins toutes ces responsabilités. Cette formation rentre dans le cadre de cette première formation, dans le cadre du transfert de compétences MONUSCO et le programme PDDRCS. Et surtout que nous avons encore une année à passer avec la MONUSCO, dont nous allons travailler en collaboration pour pouvoir, disons, mener en terme toutes ces activités et nous permettre aussi de découvrir autant d'autres petits secrets que l'on ne connaissait pas, disons, dans ce que nous faisons en rapport avec notre tâche qui nous est révolue.
Êtes-vous prêt, après le départ de la MONUSCO, pour bien assurer les tâches que la MONUSCO faisait autrefois dans le cadre de vos fonctions liées au désarmement et démobilisation?
Nous sommes très bien outillés pour prendre la relève. Je suis maintenant prêt. Là, nous dirons que nous avons besoin d'un accompagnement beaucoup plus technique. Nous avons besoin de l'accompagnement des autres organes des Nations Unies, notamment le PNUD qui va prendre presque toutes les responsabilités de la MONUSCO. Donc nous avons besoin de cet accompagnement dans une franche collaboration pour nous permettre à mener à fin notre mission qui consiste à la reddition des éléments de groupes armés et à la réduction sensible de la circulation des armes au sein de nos communautés, au sein des éléments de groupes armés.
Pensez-vous qu'il y a des obstacles du point de vue logistique ou moyens financiers qui peuvent vous bloquer à bien mener ce travail-là après le départ de la MONUSCO?
Il y a les obstacles financiers. Si réellement la communauté internationale veut que la paix revienne en République démocratique du Congo, nous prions, disons, à la communauté internationale de venir en appui à ce programme de désarmement, de mobilisation et relèvement communautaire afin qu'elle puisse, disons, mener à terme sa mission.
Voilà, Monsieur Benjamin Kalumiré. Je rappelle que vous êtes le chef des sections désarmement et démobilisation PDDRCS Sud Kivu. Radio Kapi vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal, mis en onde par Debs Vita et Alain Goy, à la supervision et coordination Jean-Désiré Kanyama et Jude Bilandankoumar, au micro Patience Ngalula Mbombo. À vous tous, merci de nous avoir suivis.